Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, les syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaires. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Caroline Michaud. Docteur Michaud, bonjour.
Bonjour.
Docteur Michaud, vous êtes médecin, généticien, praticien hospitalier à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et responsable du centre de référence syndrome d'Ehlers-Danlos non vasculaire de l'hôpital Necker. Vous avez également coordonné l'élaboration du récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur les syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaire sous l'égide de la filière OSCAR. Alors, docteur Michaud, ma première question est très simple. Qu'est-ce que le syndrome d'Ehlers-Danlos non vasculaire ?
Alors, très bonne question et je vais commencer peut-être par un détail, mais qui est très important, à savoir qu'il n'y a pas un syndrome d'Ehlers-Danlos, mais des syndromes d'Ehlers-Danlos, donc c'est important de spécifier ce point. Et alors, qu'est-ce que c'est que les syndromes d'Ehlers-Danlos ? En fait, c'est un groupe de maladies qui est en fait un groupe très hétérogène, de maladies héréditaires qui sont plus ou moins rares et qui concernent le tissu conjonctif. Alors, si on parle du point de vue clinique, ces pathologies, ce groupe de pathologies, se présente avec une triade assez caractéristique. La triade étant d'avoir une hyperélasticité cutanée, donc avec une texture de peau assez particulière, une hyperlaxité articulaire, donc qui est mesurable et qui se voit à l'examen clinique, et une fragilité tissulaire qui peut concerner la peau, les petits vaisseaux sanguins, les gros vaisseaux sanguins, et puis la paroi abdominale, la paroi pelvienne, etc. Et donc, il faut avoir les trois points de cette triade pour évoquer un des types de syndrome d'Ehlers-Danlos. Et donc, cette atteinte tissulaire du tissu conjonctif qui, par définition, est ubiquitaire, entraîne des symptômes qui sont très largement multisystémiques. Donc, les syndromes d'Ehlers-Danlos, tous, font partie de ces pathologies qui touchent tous les systèmes. Comme il y a plusieurs pathologies différentes, il y a des classifications qui ont été entreprises et la plus récente date de 2017 et donc on décompte 13 types différents d'Ehlers-Danlos. Et cette différenciation entre les différents types est vraiment très importante puisque chacun a des symptômes spécifiques, même s'ils ont tous la triade dont j'ai parlé avant, et surtout ils ont des complications qui sont différentes. Et donc c'est très important de spécifier le type d'Ehlers-Danlos et juste de dire syndrome d'Ehlers-Danlos tout seul, ça n'est pas suffisant. Après, si on se place au niveau moléculaire, vu que je suis généticienne, ces maladies, elles ont en commun d'être en lien avec des mutations dans des gènes impliqués, soit directement, soit indirectement, dans la synthèse et l'homéostasie de la matrice extracellulaire. Et donc cette matrice, elle assure des propriétés mécaniques aux différents tissus du corps, mais elle sert aussi de réservoir à des facteurs de croissance, des chémokines, etc., qui sont impliqués dans plein de fonctions différentes. Et bien sûr, cette matrice extracellulaire, elle est ubiquitaire. Et donc ça, ça explique le caractère vraiment multisystémique de ces pathologies.
Alors, si on s'attarde un peu sur l'expression clinique de la maladie que vous avez commencé à évoquer, quels sont les principaux symptômes d'alerte qui peuvent faire évoquer des syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaires ?
Alors, l'orientation vers un de ces fameux syndromes d'Ehlers-Danlos, elle doit se faire devant des symptômes multisystémiques, puisque donc, par définition, ce sont des maladies qui touchent tous les systèmes, mais seulement s'il existe les éléments de cette fameuse triade d'hyperélasticité cutanée, d'hyperlaxité articulaire et de fragilité tissulaire. Donc, si je reprends un petit peu chaque point, ce qu'on appelle hyperélasticité cutanée, la texture cutanée de la peau, quand on la touche, a une texture souvent un peu particulière, qui est souvent douce, veloutée. Et puis après, en fait, on pince les patients, en fait, vraiment, et donc on constate un étirement de la peau plus que la norme. Et donc, ça doit dépasser, alors on n'est pas avec un mètre, mais approximativement plus de 1,5 cm sur la face dorsale de la main ou sur la face palmaire de l'avant-bras et plus de 3 cm au cou, au coude ou au genou. Et on doit retrouver cet étirement de la peau à trois endroits pour vraiment pouvoir parler d'hyperélasticité cutanée. L'hyperlaxité articulaire, pareil, c'est clinique, hein, bien sûr. Ça, on peut s'aider de certains scores. Le plus connu est le score de Beighton, qui est déjà très bien en débrouillage, mais qui ne teste absolument pas toutes les articulations. Il y a un test un petit peu moins connu, enfin un score plutôt un peu moins connu, qui s'appelle le score de Bulbena, qui permet de tester un peu plus d'autres articulations et qui permet donc de bien avérer qu'il y a une hyperlaxité articulaire. Et le dernier point, donc, c'est la fragilité tissulaire, donc, qui donc, est multisystémique. Donc, si on parle de la peau, ça peut être des vergetures, donc avant la puberté chez les filles, ou anormales chez les garçons qui n'ont pas eu de variation de poids, des cicatrices anormales, dites atrophiques, donc, qui ressemblent vraiment à des aspects des fois un peu de papyrus. Au niveau des gencives, il peut y avoir des déchaussements gingivaux. Au niveau des petits vaisseaux sanguins, que ce soit des ecchymoses, des épistaxis, des gingivoragies, des règles hémorragiques, etc. Les gros vaisseaux sanguins, ça c'est très important, dilatation aortique, prolapsus valvulaire mitral, valvulopathie et anévrisme. Et on peut continuer comme ça avec aussi les organes creux. Est-ce qu'il y a eu des ruptures utérines, des ruptures intestinales? Donc ces points-là, ils sont très importants à pister à l'anamnèse puisqu'ils orientent vers les lèvres danseuses de type vasculaire, donc qui est apparenté mais qui est beaucoup plus sévère dans ses complications et qu'il faut vraiment savoir y penser. Et puis on peut aussi citer l'œil avec possiblement des ruptures de globe oculaire ou des complications cornéennes mal comprises. Après, cliniquement, les patients ils se présentent souvent en consultation avec des douleurs chroniques et des symptômes multisystémiques qui par définition sont très variés et qui peuvent schématiquement se regrouper en deux gros points principaux. Premièrement, les points articulaires, donc avec l'hyperlaxité articulaire, mais aussi souvent une hypermobilité qui est un petit peu différente. L'hyperlaxité, c'est quand les articulations elles vont vraiment dans des amplitudes pas normales. L'hypermobilité, c'est quand elles se luxent ou qu'elles se tordent trop facilement. Donc on retrouve souvent des notions d'entorse répétée, de luxation répétée et des notions de troubles de proprioception. Donc des patients qui se disent maladroits, avec un équilibre précaire, qui chutent très fréquemment. Et l'autre point, ce sont les points extra-articulaires. Qui souvent peuvent se rattacher à des éléments de dysautonomie avec des palpitations cardiaques, ce qu'on appelle le syndrome POTS, donc c'est les tachycardies orthostatiques posturales, des sensations de bloc mné ou de gêne respiratoire qui ne sont pas de l'asthme, des troubles fonctionnels digestifs, des troubles de fonction vésicale ou pelvienne également mal étiquetés. Mais vraiment, donc, il y a vraiment ces douleurs chroniques, ces symptômes multiviscéraux pas bien compris avec des explorations qui sont toujours normales. Mais vraiment, l'orientation vers un des types des lèvres dans l'os, ça se fait sur les signes de la triade dont j'ai parlé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une hyperlaxité articulaire, une peau au moins douce, mais un peu particulière et des signes de fragilité tissulaire pour penser à ce diagnostic.
Et face à ces symptômes évocateurs, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, ça dépend en fait un petit peu de la porte d'entrée qu'on considère. Si on part du syndrome douloureux chronique, parce que c'est souvent dont se plaignent les patients, mais bien sûr, il existe de très nombreuses causes de syndrome douloureux chronique qu'il faut évoquer bien avant les syndromes des lèvres dans l'os, qui sont quand même des pathologies qui sont rares. Je pense notamment à tout ce qui peut être rhumatologique, notamment toutes les connectivites, maladies donc, qui sont auto-immunes, mais qui touchent aussi cette fameuse matrice extracellulaire. Des pathologies neurologiques de type neuropathie comme les Charcot-Marie-Tooth ou d'autres neuropathies comme les neuropathies des petites fibres et puis d'autres diagnostics de médecine interne. Donc il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut évoquer les syndromes des lèvres dans l'os que s'il existe au moins une hyperlaxité articulaire et puis des éléments de peau un peu particulières et de fragilité tissulaire. Après, si on prend la porte d'entrée hyperlaxité, donc qui est plus pertinente parce que c'est vraiment un des points de la triade qui est très important pour le diagnostic, il existe quand même beaucoup de diagnostics différentiels. En premier lieu desquels, il faut parler des autres maladies de ce fameux tissu conjonctif ou matrice extracellulaire, notamment la maladie de Marfan, et les syndromes apparentés, qui sont souvent des fois un peu plus vulgarisés et connus. Donc, pour rappeler, les critères majeurs de la maladie de Marfan et les syndromes apparentés, c'est la dilatation aortique et l'ectopie du cristallin. Et puis, quand il y a une dilatation aortique, il faut savoir qu'il y a plusieurs gènes connus actuellement de dilatation aortique familiale qui sont également impliqués dans la matrice acellulaire. Et donc, ce symptôme, s'il y a une dilatation aortique, justifie vraiment des investigations génétiques. Après, il y a d'autres maladies du tissu conjonctif qui font en fait partie des maladies osseuses constitutionnelles, qui sont aussi des diagnostics différentiels importants. Je pense aux ostéogénèses imparfaites, aux maladies des os de verre, qui sont aussi en lien avec des mutations dans les collagènes et dans lesquelles il y a très souvent une grande hyperlaxité. Les collagénopathies qui touchent les collagènes du cartilage et qui entraînent ce qu'on appelle des dysplasies polyépiphysaires, qui par définition donnent de l'arthrose précoce et donc des douleurs articulaires. Et puis le groupe, mais qui est plus rare, de ce qu'on appelle les maladies avec dislocation multiple, où il y a des luxations même dès la naissance et vraiment une grande hyperlaxité et des luxations multiples. Et puis après, il y a encore d'autres diagnostics différentiels, des pathologies dermatologiques, génétiques, comme les cutis laxa, les pseudo-xéroderma pigmentosomes, des pathologies dermatologiques rares, que ce soit des cutis laxa ou les PXE, des pathologies métaboliques, notamment sur la voie métabolisme du cuivre, les CDG syndromes, etc., des pathologies musculaires et... pas oublier de très nombreux syndromes génétiques. Quand on tape hyperlaxité articulaire dans les bases de données génétiques, il y a plus de 300 syndromes qui sortent, avec beaucoup qui ont aussi un déficit intellectuel. Donc vraiment, il n'y a pas de déficit intellectuel, de déficit cognitif dans les syndromes d'Ehlers dans l'os. Donc ce signe-là, il doit alerter et faire rechercher quelque chose. Après, l'idée, ce n'est pas de remplacer d'emblée le généticien, mais c'est vrai qu'il faut avoir la prudence devant une hyperlaxité, de dire que ce n'est pas obligatoirement un syndrome d'Ehlers dans l'os. Et puis après, je voudrais en profiter pour introduire une nouvelle notion qui est apparue dans la classification de 2017, qui est très importante, qui décrit ce qu'on appelle maintenant les désordres du spectre de l'hypermobilité, qu'on abrège en HSD en anglais. Et cette entité, elle est assez vaste, mais elle est importante, puisque en fait, elle concerne des patients qui ne sont plus vraiment dans les maladies rares, mais qui souffrent d'une hyperlaxité articulaire compliquée. J'entends compliquée dans le sens complications articulaires avec hypermobilité en torse, luxation et troubles de proprioception, mais également extra-articulaires avec possiblement des signes qui rappellent des signes de dysautonomie. Et ces patients-là n'ont pas ou très peu de signes de fragilité cutanée ou tissulaire et donc ne rentrent pas dans le cadre de maladies rares. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en charge, mais on est en dehors et pour beaucoup de patients qu'on voit en consultation, au final, ils relèvent de cette entité. Donc, il faut qu'on fasse connaître aussi à nos collègues généralistes et autres spécialistes.
Et devant un patient chez qui on peut suspecter des syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire, quels sont les examens de première ligne que le médecin traitant peut effectuer avant d'adresser le patient à un centre de référence?
Alors, la première chose, c'est déjà d'essayer de bien détailler l'examen clinique. Si je peux passer le petit message d'essayer de nous faire une description clinique en plus de l'anamnèse, ça serait vraiment important. Et clairement, sans hyperlaxité articulaire, il est clair qu'il ne faut pas orienter en première indication les patients vers les centres de compétences et de référence pour les Ehlers dans l'os non vasculaire. Après, s'il y a, comme je l'ai déjà dit, mais une hyperlaxité, une peau pas tout à fait normale, un peu des signes de fragilité tissulaire, il ne faut pas hésiter à nous les adresser. Et donc, les examens à proposer avant, je dirais, sont de deux ordres. Le premier, ce sont les examens qui peuvent orienter soit vers un autre type d'Ehlers dans l'os, notamment vers le type vasculaire, qui est celui qu'on craint et qu'on n'aime pas vu les complications sur les organes creux et les anévrismes vasculaires, ou vers un autre type de maladie du tissu conjonctif, notamment sur le versant pathologie osseuse. Donc les examens minimum qu'on aime bien avoir au moment de la consultation, c'est une échographie cardiaque et si possible des troncs supra-aortiques. Et puis s'il y a des particularités, compléter le bilan vasculaire et demander un avis d'ophtalmologie pour regarder s'il y a une ectopie du cristallin ou une cornée un peu fine. Et l'autre, ce sont des radiographies de squelette. Alors sans trop irradier, quand on parle de radiographie de squelette, on entend radiographie du rachis entier debout, si possible, de face et de profil, un bassin de face, deux genoux, deux mains. Ça permet d'avoir les vertèbres, des petites, moyennes et grosses épiphyses. Et ce qu'on recherche avant tout, ce sont des signes de dysplasie épiphysaire ou de déminéralisation osseuse qui peuvent orienter vers des ostéogenèses imparfaites à minima ou des collagénopathies du cartilage. S'il y a des signes sur les radiographies, il ne faut pas hésiter à demander, même avant la consultation, une densitométrie osseuse s'il y a un aspect déminéralisé et un bilan fosso-calcique. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième, ce sont les examens qui explorent les symptômes un peu multisystémiques. Parce que ce n'est pas parce que les syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire sont des maladies systémiques, multisystémiques, qu'il faut y rattacher tous les symptômes sans aucune exploration. D'une part, il faut explorer pour ne pas méconnaître des diagnostics différentiels, notamment tout ce qui est rhumatologique type connectivite, donc pathologie auto-immune. Et deuxièmement, pour ne pas méconnaître des symptômes ou des pathologies associées qui pourraient mériter une prise en charge spécifique et qui soulageraient au moins une partie des symptômes, puisqu'on n'a que des traitements symptomatiques hein, dans ces pathologies. Donc souvent, on demande volontiers au moins un bilan inflammatoire minimum, un bilan de coagulation, surtout s'il y a beaucoup d'ecchymoses, d'hémorragie type épistaxie, gingivorragie. Donc bilan thyroïdien et sérologie virale, puisque ces patients se plaignent assez régulièrement de fatigue chronique. Et puis, tout ce qui paraît pertinent, je veux dire, devant des troubles fonctionnels digestifs, d'éliminer une maladie cœliaque, devant des palpitations, d'envoyer chez le cardiologue faire un Holter, etc. Puisque, encore une fois, j'insiste sur le fait que ces patients ont des traitements uniquement symptomatiques, même s'ils sont très importants déjà. Et donc, il faut essayer de soulager chaque symptôme pour chaque patient.
Et au final, docteur Michaud, comment établir avec certitude le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos non vasculaire ?
Alors, là encore, je rappelle que donc on parle d'un groupe de maladies, et donc la réponse, en fait, elle découle de ça. C'est-à-dire que soit on a une orientation vers un type de SED, donc d'Ehlers-Danlos hors type hypermobile, et dans ce cas-là, on a des tests génétiques qui peuvent tout à fait valider le diagnostic. Je ne vais pas tous les énumérer, mais par exemple, le type classique, il est lié à des mutations dans les gènes qui codent le collagène de type 5, les types syphosqueliotiques dans deux gènes qui s'appellent CLOD1, FKBP14, etc., etc. On peut les décliner pour tous les types, à part le type hypermobile. Et ces tests génétiques, ils sont importants non seulement pour valider le diagnostic, ce qui est déjà important, mais aussi pour le conseil génétique. Parce que, par exemple, si je prends les types classique-like ou syphosqueliotique, puis il y en a d'autres, ils sont de transmission autosomique récessive. Il y a donc des risques de récidive dans les fratries des patients concernés, mais il n'y a pas de risque de transmission à la descendance, sauf s'ils se marient entre cousins. Donc, ce point-là est quand même vraiment important, et les patients souvent posent la question du risque de transmission à la descendance. Après, la question qui est difficile, en fait, c'est d'avoir une certitude pour le syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile, puisque ce type-là, on n'a pas de base moléculaire clairement identifiée pour lui. Et donc, comme tous les diagnostics qui sont uniquement cliniques, c'est difficile d'affirmer une certitude. Et donc, ce diagnostic qui repose sur la triade caractéristique des autres syndromes d'Ehlers-Danlos, hein, dont je rappelle l'hyperlaxité articulaire, l'hyperélasticité cutanée et les fragilités tissulaires. Et donc la revue des critères diagnostiques et de la classification en 2017 a proposé une grille diagnostique donc par un consortium international qui travaille sur les syndromes d'Ehlers-Danlos. Donc cette grille, elle est probablement perfectible, mais elle apporte quand même une grande aide pour essayer de pister les signes de fragilité tissulaire et surtout d'essayer d'harmoniser les pratiques cliniques et de diagnostic. Et un des points importants et qui est intégré à cette grille, c'est l'exclusion des diagnostics différentiels, notamment les autres types de syndrome d'Ehlers-Danlos, les autres pathologies du tissu conjonctif et notamment, je le répète, mais les pathologies rhumatologiques type connectivite et les autres pathologies avec hypermobilité type maladie musculaire ou autres, maladies osseuses, etc., dont on a parlé un peu avant. Donc, pour vraiment parler de diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile, je dirais qu'il faut l'association à la fois de signes positifs, hyperlaxité articulaire, une texture de peau un peu douce, voire une hyperélasticité cutanée, des signes de fragilité tissulaire, que ce soit vergeture, cicatrices un peu atrophiques, hernie de la paroi abdominale, prolapsus pelvien, valvulopathie cardiaque, voire un morphotype un peu marfanoïde, et une association avec des signes négatifs, c'est-à-dire pas de connectivite et pas d'argument pour d'autres pathologies du tissu conjonctif. Et quand on a la conjonction de ces signes positifs et de ces signes négatifs, on est quand même confiant dans ce diagnostic, même si pour l'heure, il n'est que clinique.
Eh bien, merci mille fois, docteur Michaud, de nous avoir éclairé sur les syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaire. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de ces pathologies, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaire. À très vite.